C'est quasiment le même évangile que dans la nuit de Noël, vous avez remarqué. Cela signifie d'ailleurs que, au fond, on ne peut pas parler de Marie sans parler de Jésus, où on ne peut comprendre Marie qu'à la lumière de Jésus, qu'on ne peut pas les séparer. D'ailleurs, dimanche prochain, dans l'évangile de l'Épiphanie, vous verrez aussi que les mages virent l'enfant et sa mère. On ne peut pas séparer Marie de Jésus, on ne peut comprendre Marie qu'à la lumière de Jésus, et on ne peut comprendre Jésus correctement aussi que en le regardant avec les yeux de Marie. Ça, c'est une autre question, mais c'est tout à fait réciproque. On comprend bien Jésus si on accepte aussi de passer par Marie. Donc vous voyez que la liturgie a eu du mal à trouver un texte biblique qui parle uniquement de la Vierge Marie. On aurait pu évidemment choisir l'Annonciation de l'ange Gabriel, on aurait pu choisir peut-être un autre passage qui nous parle de Marie, mais voilà, puisque nous sommes dans le temps de Noël, on regarde à nouveau la crèche, et pour comprendre la maternité divine de Marie, on voit simplement qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu qui s'est fait homme, et donc que cet enfant, comme je le disais au début de la messe, est à la fois Dieu et homme dans une seule personne. Dans une seule personne. Pour nous, c'est mystérieux parce que nous sommes, nous, purement des êtres humains. Mais Jésus, lui, est à la fois homme et Dieu. Mais il n'a pas deux personnalités. Il a deux natures, nature humaine et nature divine. C'est ainsi que les théologiens des premiers siècles, c'est la conclusion à laquelle ils ont abouti. Et ils ont dit que ces deux natures qui étaient en Jésus n'étaient pas en train de se manipuler l'une l'autre. Vous savez, on pourrait penser que l'humanité de Jésus est manipulée par sa divinité et que Jésus est téléguidé en quelque sorte, totalement, comme font, n'est-ce pas, nos chers enfants avec les voitures téléguidées qu'ils ont eues au pied de la crèche, au pied du sapin de Noël. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Il y a un parfait respect de l'un et de l'autre. Et pour nous, ça demeure totalement mystérieux. On ne peut pas comprendre. Les théologiens ont appelé ça l'union hypostatique, l'union des hypostases, l'union des natures. Mais voilà, ça nous échappe totalement. Et je pense que la nature divine de Jésus a respecté, par exemple, sa croissance humaine. Quand Jésus était petit enfant, il ne savait pas, parce qu'il était Dieu, tout ce qu'il aurait dû savoir à 30 ans, évidemment. Ou alors vous en faites un monstre. Il y a eu comme ça des évangiles apocryphes qui présentaient un Jésus enfant sous la forme d'un monstre. Il savait à 5 ans, voilà. Mais ça ne peut pas être le cas. Donc on voit bien que la nature divine en Jésus a respecté totalement la croissance de sa nature humaine et que Jésus a dû apprendre aussi. Devant Joseph et Marie, Jésus n'était pas en train d'ouvrir la bouche en tant que nourrisson de 3 mois pour leur apprendre des choses sur le royaume de Dieu, vous comprenez bien. À cet âge-là, il ne savait pas parler encore, voilà. Et Jésus a donc grandi, Jésus a appris, et Jésus a appris, par exemple, toute la Bible par cœur, sous la férule de Joseph. Le père de famille donnait à l'enfant, tous les jours, quelques versets de la Bible à apprendre par cœur. Et c'est comme ça qu'un enfant de 12 ans se retrouvait en sachant par cœur tout l'Ancien Testament. Si vous avez une Bible à la maison, vous voyez ce que représente l'Ancien Testament, c'est énorme. Et parce qu'il avait mémorisé tous les jours avec son papa, à la maison, quelques versets de la Bible, eh bien il finissait à l'âge de 12 ans par savoir totalement la Torah, la loi de Dieu et toute l'Écriture. Quel mystère! Mais nous aurions besoin, nous, de revenir à une certaine mémorisation de la parole, parce que cela permet d'être habité au niveau du cœur par la parole de Dieu qui alors peut nous éclairer intimement pour diriger nos consciences. Saint Paul lui aussi a balbutié pour parler de Marie. Je ne sais pas si Saint Paul a connu la Vierge Marie. Saint Luc, oui, Saint Luc n'est pas l'un des 12. Saint Luc est un médecin originaire d'Antioche. Antioche, ça a été le lieu de l'expansion du christianisme juste après Jérusalem, au 1er siècle, Antioche de Syrie, donc au nord. Et Luc était originaire d'Antioche, il était médecin de profession. Et Luc, quand il s'est converti, a décidé d'écrire un évangile. Et donc, il est allé voir. Il a fait le tour des papotes, il est allé voir tout le monde. Et il a connu la Vierge Marie. Comment aurait-il pu nous retransmettre les récits de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, comme il le fait sans avoir eu des contacts très précis avec Marie. Mais saint Paul, on ne sait pas. Saint Paul qui s'est converti en l'an 36, saint Paul n'a pas connu Jésus directement, saint Paul n'a pas connu Marie, peut-être l'a-t-il rencontré, mais en tout cas il y a un seul verset dans toutes ses lettres, le corpus des lettres pauliniennes c'est quand même énorme, il y a un seul verset sur tout l'ensemble des lettres de Paul qui nous parle de Marie, et c'est celui qu'on a entendu à l'instant, où saint Paul dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. » Voilà, c'est tout ce que dit Paul à propos de Marie. « Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. » Donc il la place, il la met vraiment à sa place, mais il ne dit pas plus. Et cependant, dans la suite, on voit bien que pour lui, la maternité divine de Marie rejaillit aussi sur une maternité à dimension ecclésiale, c'est-à-dire que Marie devient ipso facto aussi mère de tous les frères de Jésus, mère spirituelle. Et saint Paul dit, voici la preuve que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Et ça, c'est aussi grâce à la Vierge Marie que nous pouvons ainsi recevoir l'esprit de filiation qui nous permet de nous adresser à Dieu en disant « Papa ». Nous ne sommes plus uniquement dans une dimension de transcendance, comme par exemple le vivent les musulmans, mais nous sommes aussi dans une dimension d'intimité. Jésus, qui a appelé Dieu Papa, nous a donné la possibilité d'en faire autant. Ça n'a pas été rien, d'ailleurs, pour les premiers chrétiens qui étaient originaires du judaïsme, de devoir rentrer dans cette perspective, parce que pour eux, Dieu, qu'il soit Père, sûrement, mais en un sens comparé, si vous voulez, en un sens comparé par rapport au père de famille. Mais pouvoir dire à Dieu « Papa », ça c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et ça c'est Jésus qui a introduit cela dans la prière. Et c'est Jésus qui nous donne cette possibilité grâce à l'Esprit Saint qui nous habite au moment de notre baptême et de notre confirmation, de pouvoir dire nous aussi « Papa »,« Abba » en hébreu. Et d'avoir cette familiarité qui n'est pas cependant une sorte de copinage, comme on pourrait dire, n'est-ce pas ? On ne va pas traiter Dieu d'égal à égal, mais on ne va pas non plus effectivement faire comme nos frères musulmans, c'est-à-dire se prosterner le front jusqu'à terre en disant que Dieu est uniquement Allah le Très-Haut. Pour nous, il est Papa, il est le Père du Ciel. Et nous sommes fils, et nous n'en avons plus peur. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Nous pouvons toujours nous dire que lorsqu'il y a dans notre cœur quelque chose qui traîne et qui est de l'ordre de la peur, de la crainte, mais de la crainte non pas pour mettre Dieu à sa véritable place et nous-mêmes à notre véritable place de créature. Ça, c'est une bonne crainte de Dieu, mais une crainte au sens où on en a peur, on a peur de son jugement, on a peur de sa présence, on s'en cache quelque part. Si dans notre cœur il y a ça, ça veut dire que nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour accueillir le Saint-Esprit qui doit nous permettre d'être libérés de la peur et de pouvoir vivre cette joie et cette paix d'appeler Dieu « Papa, tu es celui qui me donne la vie ». Tu es celui qui me fait vivre, tu es celui de qui je me reçois, tu es celui vers qui je vais. C'est étonnant ça, le mystère de la prière chrétienne. Et vous comprenez que alors la prière chrétienne c'est vraiment le Notre Père. Et que le Notre Père, au fond, ne peut nous avoir été enseigné que par quelqu'un qui connaît vraiment le Père, que par quelqu'un qui vient du ciel. La prière du Notre Père commence par les mots « Abba, Papa, sur la terre comme au ciel, fais venir ton règne, accomplis ta volonté, sanctifie ton nom. » Voilà. Nous nous adressons au Père du ciel et nous lui disons « sur la terre, comme c'est au ciel. » Et quand Jésus nous a donné cette parole, cette prière, il n'y a que lui qui pouvait nous faire dire ça, parce que lui, il vient du ciel et il perçoit toute la différence qu'il peut y avoir entre le ciel et la terre. Et il nous fait prier, « Père, sur la terre comme au ciel, sanctifie ton nom, accomplis ta volonté, fais venir ton règne. » On s'adresse à Dieu, on se tourne vers lui, on lui demande d'agir. Dans le texte grec du Notre Père, ce sont des impératifs. On lui demande d'agir. « Sanctifie ton nom, que ton nom soit connu dans tous les cœurs, comme Père. » Et puis, fais venir ton règne, voilà, que nous allions plus loin dans notre obéissance à ta parole. Et puis, accomplis ta volonté, conduis ce monde selon ton plan, voilà. C'est seulement après que nous demandons pour nous le pain, le pardon et la force de résister au mal. Mais c'est même pas ce qui nous serait venu à l'esprit nous-mêmes si on avait des choses à demander, n'est-ce pas ? Et nous, si on avait dû composer notre Père, on l'aurait fait à l'envers. On aurait commencé par dire « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait habituellement la prière, en se mettant soi-même en avant, alors que Jésus nous a enseigné à faire l'inverse. Alors tout cela, c'est les conséquences de la présence parmi nous du Fils de Dieu fait homme. C'est comme une pierre qu'on lance dans une... sur un lac, si vous lancez un gros caillou sur un lac, ça va faire plouf, et puis ça va faire des ronds dans l'eau. Vous connaissez bien le phénomène. Et depuis que Jésus, Fils de Dieu fait homme, plouf, est venu dans le monde, sa présence ne cesse d'affecter tous les hommes et de leur donner la possibilité, eux aussi, d'appeler Dieu Papa et de vivre cette intimité, cette filiation divine. Alors Marie n'est plus seulement mère de Dieu, mère du Fils de Dieu, mère de Jésus, elle est aussi notre mère. Et lorsque nous prenons le temps de prier avec elle, une dizaine de chapelets, ou de réciter notre chapelet, je vous engage beaucoup à le faire parce que c'est extrêmement fécond dans la vie spirituelle, Marie, comme une mère, nous éduque véritablement à bien comprendre comment nous adresser au Père en Jésus, à bien nous situer par rapport au Père du ciel. Il ne faut pas oublier que Marie est la plus proche du Père, c'est le Père qui a envoyé l'ange Gabriel, la plus proche du Fils, elle est sa mère, et la plus proche du Saint-Esprit, car l'ange Gabriel lui dit « L'Esprit-Saint viendra sur toi ». Donc elle connaît bien la Trinité, et elle est capable de nous introduire, nous aussi, dans une relation juste à chacune des personnes de la Trinité, que nous puissions progresser dans cette connaissance du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit tout au long de cette année, avec l'aide de la Vierge Marie.